l'heure de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à VOA Afrique. Nous sommes ensemble en direct, comme tous les lundis soirs, c'est Sporama, votre magazine pour refaire l'actualité sportive. Une actualité évidemment chargée, Coupe du Monde oblige. On va évidemment refaire cette actualité, vous donner les résultats, les analyses et vos commentaires. On attend également vos appels en direct. Le numéro de téléphone 001 202 205 26 33, le téléphone 001 202 205 26 33. On va saluer nos intervenants habituels depuis Casa au Maroc. Amine Birouk, bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également Élisée Ongpatine à Boïkon, Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA Afrique.
On va saluer également Jules Valentin Goé à Libreville avec nous. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on salue également dans ce studio avec nous à Washington, Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Allez, on reste avec vous Yacouba, puisque l'information de la soirée, c'est bien évidemment en provenance de Yaoundé. La décision de la FECAFOOT, elle était attendue suite à la non-qualification pour la Coupe du Monde. Mais c'est officiel, Hugo Brousse a été limogé. Il n'est plus le sélectionneur des Lions Indomptables. Que lui reproche-t-on?
Alors Nicolas, vous l'avez dit, Hugo Brousse n'est plus le sélectionneur des Lions Indomptables. Le motif principal du divorce entre Hugo Brousse et la FECAFOOT reste l'insuffisance de résultats selon le communiqué de l'instance camerounaise de football. Dans l'énumération des raisons de ce licenciement, la FECAFOOT avance entre autres la non-qualification bien sûr du Cameroun pour le Mondial 2018, le refus de certains joueurs professionnels de rejoindre les Lions Indomptables du fait de la présence d'Hugo Brousse à la tête de la sélection. Il a aussi reproché aux techniciens belges une mauvaise gestion de l'affaire de la Bruxelles Gate, et on se rappelle encore cette histoire des factures impayées. Et il soit bien sûr des factures impayées qui ont valu quand même aux techniciens belges et 3 lettres d'explication. Il est aussi la FECAFOOT bien sûr avance que vu l'impérieuse nécessité d'une préparation efficace et sereine de l'équipe nationale pour la CAN Total 2019, il fallait se séparer bien sûr d'Hugo Brousse. Hugo Brousse qui a été champion d'Afrique avec les Lions Indomptables, on se rappelle, en janvier dernier.
Alors justement, la transition est toute trouvée. Jules Valentin Goué, finalement le titre, c'était un accident en 2007, puisqu'il y a eu des problèmes avant cette compétition, il y en a eu après. 22 mois à la tête des Lions Indomptables, un titre quand même, hein, mais Hugo Brousse qui s'en va. Hein.
Oui, je pense surtout que les dirigeants camerounais ont une amnésie sélective. Parce que quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Il ne faut pas oublier qu'il y a à peine quelques mois seulement, cet entraîneur a trouvé une équipe en pleine déroute que ses propres joueurs vedettes fuyaient. Et il était question pour lui que son objectif soit d'en faire une équipe compétitive dans 2 ans pour faire la Coupe des Nations, jouer correctement la Coupe des Nations au Cameroun. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'il a fait de cette sélection une véritable équipe, a réussi à gagner la CAN avec la manière, puisque tactiquement, il a pris le dessus sur la plupart de ses rivaux. Bon, mais voilà que pour on ne sait quelle raison, surtout sur le plan sportif, puisqu'on l'avance, sur les 14 derniers matchs des Camerounais, que les Camerounais ont joué contre les équipes africaines, ils n'ont perdu que le match contre le Nigeria et si on accepte la défaite contre la Guinée où il y avait une équipe de substitution. Alors vous vous rendez compte. Et on sait aussi que cette équipe camerounaise pendant ces 11 derniers mois a battu tous les représentants africains à la Coupe du Monde sauf le Nigeria. Je citerai l'Égypte, le Sénégal, et le Maroc et la Tunisie. Bon, donc ma foi. Qu'on lui reproche peut-être une prestation insuffisante à la Coupe des Confédérations, c'est juste, mais que pouvait-il faire de mieux avec un effectif comme celui qu'il a? Je pense que Brousse paye surtout la facture pour avoir gagné trop tôt la Coupe des Nations.
Voilà, en tout cas, c'est vrai qu'on suivra ça. En tout cas, on le dit, hein, l'équipe du Cameroun qui n'a plus de sélectionneur ce soir, on va suivre évidemment ça sur les ondes de VOA Afrique. On va marquer une petite pause dans cette émission et on arrive tout de suite avec le plat principal, la Coupe du Monde. Georges Léonard Sagnot qui danse derrière la vitre, hein, ça c'était la musique. La Coupe du Monde 2014, 4 ans plus tard, la Coupe du Monde 2018. Il va faire moins chaud hein, à Moscou qu'à Rio, évidemment, mais on en parle. Le tirage au sort a eu lieu vendredi pour cette Coupe du Monde 2018 qui, vous le savez, aura lieu en Russie. Et l'objectif, il est simple hein, pour les équipes africaines. Est-ce qu'on va enfin avoir une équipe africaine en demi-finale de cette Coupe du Monde? Peut-être plus, peut-être moins. La réponse l'été prochain. On a 8 poules, évidemment, 2-4 équipes. C'est une Coupe du Monde encore à 32 équipes, évidemment. Et évidemment, il y a des groupes homogènes, pas vraiment de groupe de la mort. On va saluer deux nouveaux intervenants qui nous ont rejoints. Thierry Kambundi, qui est avec nous depuis Kinshasa, Top Congo FM. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Et on va saluer l'homme de Dakar, Amdine Sy, qui est avec nous. Bonsoir Amdine.
Bonsoir Nicolas Pinot et bonsoir à tous les auditeurs de la Voix Afrique.
Allez, on parle évidemment de ce groupe A. On va retrouver Amine Birouk qui est avec nous depuis Casablanca. Amine, un groupe A pour les pharaons d'Égypte, a priori jouable hein, avec la Russie, pays organisateur, l'Arabie Saoudite. Le gros morceau, ce serait peut-être l'Uruguay avec les deux buteurs, évidemment Suarez et Cavani. Après 28 ans d'absence, vous, qu'est-ce que vous faites de ce groupe A face aux pays organisateurs qui pourraient peut-être avoir un regain de motivation comme c'est souvent le cas dans ces compétitions?
Un pays organisateur qui a réussi de bonnes prestations lors des dernières rencontres amicales, comme le prouve le match nul face à l'Espagne avec un 3 partout. La Russie qui est en train de se chercher une identité de jeu après un fiasco au Mondial 2014, un raté à l'Euro 2016, et qui aura à cœur de prouver qu'elle vaut mieux qu'une élimination au premier tour. Maintenant, l'Égypte, après 28 ans d'absence, a de jolis atouts à mettre en valeur pendant cette compétition, à savoir un attaquant tout à fait en forme, comme Mohamed Salah, et Nini au milieu de terrain, et un collectif solide, des joueurs expérimentés, et surtout une chance énorme au tirage au sort, puisqu'il se retrouve sur la route de l'Arabie Saoudite, qui revient à la compétition après une éclipse de Coupe du Monde. L'Uruguay, avec peut-être deux des meilleurs attaquants au monde, mais pas le meilleur milieu de terrain au monde. Et puis, le pays organisateur, la Russie, en panne de confiance il y a quelques semaines et qui retrouve un peu des sensations. Les Égyptiens ont joli coup à jouer. Ça commence par le premier match face à l'Uruguay, où il faudra véritablement assurer. Tout dépendra de ce premier match. Et si les Égyptiens arrivent à s'en sortir, ils ont de sérieuses chances de passer pour la première fois de leur histoire le cap du premier tour.
Alors, on va suivre ça. On va prendre un premier auditeur qui nous appelle depuis le Niger. C'est Ismail. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, Ismail, vous avez été plutôt pessimiste hein, sur Facebook. Vous dites que l'Afrique a des talents, mais vous avez l'impression que ce sera peut-être encore l'Allemagne. Hein ?
Non, vraiment, l'Allemagne, là. Le Brésil, des.
Allez-y, expliquez-nous.
Je suis optimiste. Pour le Brésil, je crois que le Brésil gagnera la Coupe du Monde.
Alors
je sens et je le crois.
Pourquoi pas les équipes africaines?
Bon, vraiment, les équipes africaines, là, ils sont trop en retard sur le football.
On est trop en retard. On va peut-être poser la question à Elisong Patine. Notre auditeur, finalement, au Niger, nous dit que les équipes sont en retard, mais on a quand même des grands joueurs dans chaque sélection. Bumikel au Nigeria, on disait ça là avec les Égyptiens, par exemple, le Sénégal, Sadio Mané. Est-ce que vous partagez l'avis de cet auditeur?
Nicolas, oui, il faut dire que ce sera une Coupe du Monde très difficile pour les pays africains. C'est vrai que l'Égypte peut s'en sortir dans le groupe A, tout comme le Maroc dans le groupe B pouvait s'affronter en huitième de finale pour une place en quart de finale. Maintenant, ça va être très difficile. C'est vrai que chaque sélection africaine aura la chance d'avoir une star dans sa formation, mais ça ne suffit pas puisque il faudra tout de même avoir un jeu consistant, collectivement peut-être fort, et avoir aussi l'expérience des grandes compétitions hein, pour pouvoir aller très loin. Sinon, en tout cas, pour cette édition de 2018, on aura les habitués. Est-ce que le Brésil ira remporter cette Coupe du Monde que l'Allemagne est allée remporter sur le continent américain? Puisque Nicolas, il ne faut le dire jamais, un autre continent allait remporter une Coupe du Monde sur un autre continent. Seul l'Allemagne l'a fait en Amérique. Est-ce que le Brésil pourra aller le chercher en Europe? On le saura très bientôt, mais c'est une Coupe du Monde qui sera vraiment ouverte.
Oui, c'est ça. Hein. C'est un peu ça. C'est une Coupe du Monde ouverte. Vous l'avez dit, on va passer au groupe B, évidemment. l'ogre espagnol, l'ogre portugais, ça va faire mal. Hein. Je le disais, les supporters marocains ont dû avoir les yeux qui piquent. On va retrouver notre ami Thierry Cambudi qui est à Kinshasa, évidemment. Thierry, on le disait, hein, ce groupe est difficile pour les Marocains, hein, avec évidemment deux monstres, comme disait Hervé Renard, dans ce tirage, et on rajoute l'Iran, hein, comme quatrième équipe dans ce groupe. Hein.
Tout à fait. J'ai suivi le sélectionneur des Lions de l'Atlas du Sénégal qui a tout dit par rapport à ce groupe avec les champions d'Europe en titre, avec l'un des anciens champions du monde espagnol. L'Espagne dont je parlais il y a quelques semaines sur les antennes de VOA Afrique, qui est dans une génération transitoire entre la vieille époque, la vieille équipe de Piqué, de Iniesta, qui est en train de partir, qui laisse place à la génération de Isco, de Asensio, de Morata, qui est en train de monter, mais l'équipe a gardé sa philosophie de jeu et risque de faire très très mal au vu des éliminatoires qu'elle a eu à produire en Europe. Ça sera difficile pour le Maroc, mais j'ai vu cette formation marocaine à la Coupe d'Afrique qui était dans la même poule que la République démocratique du Congo, souvenez-vous. Je l'ai vu également se produire en Côte d'Ivoire et même à domicile. J'ai senti la patte d'Hervé Renard, j'ai senti que cette équipe a progressé et qu'elle peut bien, avec sa discipline tactique, avec ce jeu rapide, ça fait tant de mal à des nations africaines, malgré son élimination à la Coupe d'Afrique des Nations, aller piquer les grands et chercher à voir les résultats, même si j'ai du mal à mettre une pied sur eux, à les voir en quart de finale. Ça risque d'être très, très difficile, mais pourquoi pas oser pour Hervé Renard et ses poulains qui ont réussi l'exploit d'aller arracher leur titre, leur ticket pour le mondial à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Allez, on va écouter Hervé Renard, hein, qui s'exprimait juste après le tirage depuis la Russie. On l'écoute.
C'est un tirage au sort, bien sûr, difficile pour nous. Quand on a le champion d'Europe en titre et l'une des meilleures équipes mondiales, qui est l'Espagne, c'est un groupe difficile. On jouera notre premier match contre l'Iran aussi. Voilà, après je dis, les deux grands ou gros favoris sont l'Espagne et puis le Portugal. Maintenant, à nous d'aller à cette Coupe du Monde avec une grande motivation et ne pas y aller simplement pour participer.
Voilà, on n'y va pas en touriste, c'est ce que disait Hervé Renard. Amine Birouk, les échos à Casa, tirage difficile, hein, va falloir être costaud. Hein.
Tirage difficile, et puis le Marocain moyen fait preuve d'humour en disant, par exemple, il y a des blagues qui circulent, si on bat l'Iran, si on fait match avec le Portugal, est-ce qu'un certificat médical contre l'Espagne serait suffisant pour nous qualifier? Bon, voilà, ça, c'est la preuve qu'on a essayé de prendre les choses un peu plus à la légère, étant donné les circonstances et peut-être même le manque de chance au tirage au sort. Mais pour revenir à cette génération qui est en constant progrès, il y a de l'ambition, il y a des joueurs qui évoluent dans les plus grands clubs européens, on parle d'Abenatia, par exemple, à la Juventus de Turin, d'autres qui jouent au Real Madrid ou à l'Ajax d'Amsterdam comme Ziyech, ce sont des joueurs qui disputent régulièrement les matchs de Champions League et d'Europa League. Donc aucun complexe à nourrir vis-à-vis de l'ordre espagnol ou du monstre portugais. L'ordre des matchs peut convenir à l'équipe du Maroc puisqu'ils affrontent au tout début de la compétition l'Iran. C'est là où il faudra prendre les trois points pour pouvoir se rassurer et préserver toutes ses chances. L'Iran qui n'est pas le dernier venu au concert des nations, qui est présente en Coupe du Monde assez régulièrement lors des dernières éditions, qui a menacé l'Argentine en 2014, qui avait fait plus que bonne figure et qui a fait preuve, je dirais, d'un sérieux, d'une rigueur lors des éliminatoires, qui a fait que l'Iran s'est qualifié parmi les premières nations à la Coupe du Monde. Si le Maroc arrive à tirer son épingle du jeu lors du premier match, il pourra aborder en toute sérénité la seconde rencontre face au Portugal. On rappelle que le Portugal n'a jamais été à l'aise lors des matchs de poule, que ce soit lors de la dernière Coupe du Monde où il a été sorti au premier tour dans un groupe où figuraient le Ghana, l'Allemagne et les États-Unis, ou lors du premier tour de l'Euro où il était passé, je dirais, ric-rac, troisième, après avoir concédé trois matchs nuls face à la Hongrie, ouais, l'Autriche et l'Islande. Ce n'est qu'après que le Portugal était monté en puissance. Donc il y a un coup à jouer. Et puis il y a un autre aspect qu'il va falloir quand même garder à l'esprit, c'est que les joueurs du Real Madrid, de Barcelone, les grandes cylindrées européennes, arriveront épuisés après une longue saison où ils auront disputé plus de 70 matchs, Liga, Première Ligue,
ouais, c'est comme ça chaque année. Hein.
Et l'aspect fraîcheur physique risque d'être très important lors d'une Coupe du Monde où finalement le temps de préparation, grosso modo les sélections démarrent vers le 20 mai pour être au top à partir du 14 juin. Donc en 3 semaines, est-ce que ces grandes sélections, est-ce que ces grands joueurs auront récupéré des efforts qu'ils auront consentis pendant de longs mois?
Ouais, c'est comme ça quand même chaque année, hein, mais c'est vrai que ça peut être un argument. L'argument de la fraîcheur, on en parlait également avec évidemment Gernot Rohr et le Nigeria. On va l'entendre dans quelques instants, mais je voudrais vous faire écouter le président de la Confédération africaine de football, le malgache Armat, qui s'exprimait sur VOA Afrique, qui reconnaissait que c'était dur, mais lui, il estime qu'il y aura peut-être 2 voire 3 équipes africaines en 8e de finale. On l'écoute et on en discute ensemble juste après.
Sur le papier, c'est vrai, mais comme je vous le dis, on ne peut pas prédire quoi que ce soit aujourd'hui dans le football moderne. Une petite erreur de coaching ou quelque chose qui cloche, ça peut changer le cours du match. Il faut se battre, c'est tout.
Yeah, on peut en tout cas légitimement penser que l'Afrique aura au moins un représentant en 8e de finale.
Je pense même pas un seul, je pense qu'on peut envisager 2-3. Moi, je pense qu'on peut espérer 2-3 au tour suivant.
Alors, Amdine Sine, vous êtes avec nous à Dakar. Amédine, 2 ou 3 selon les estimations du président de la CAF. Est-ce que le Nigeria pourrait être de cela? Le Nigeria qui va actuellement avoir l'Argentine, l'Islande et la Croatie dans son groupe. 5e confrontation avec le Nigeria lors d'une phase finale. Vous pensez que le Nigeria sera au prochain tour?
Oui, tout à fait. J'abonde dans le même sens que le président de la CAF, hein, parce que en football, tout se passe sur le restant vert, parce que quand on regarde quand même les équipes, le classement FIFA, les autres qui le composent, on peut se dire que on n'a pas trop de chance. Mais si on regarde ce qui se passe sur le terrain, on se dit que c'est possible. Le Nigeria l'a déjà montré. Les Nigeria ont joué l'Argentine et ils ont réussi à s'imposer. C'est un match amical, mais c'est possible en football, tout est possible. Moi, je donne toujours l'exemple de 2002, lorsqu'on a effectué le tirage et qu'on est tombé sur la France en 2002. Les joueurs sénégalais, les plus cotés, jouaient dans des clubs de seconde zone en France, comme Lens et l'AS Douf, les Kalidou Fadiga. Kalidou Fadiga, ils jouaient à la vie Auxerre, comme les Moussa Ndiaye, les Salif Diao, ils jouaient dans de petits clubs. Et en ce moment, on avait les 3 meilleurs buteurs des plus grands championnats. Il y avait Trezeguet qui avait été le meilleur buteur du championnat italien. Il y avait Thierry Henry qui était le meilleur buteur du championnat anglais et le meilleur buteur du championnat français. Donc, si on regardait tout cela, on se disait que le Sénégal n'avait pas de chance. Mais sur le terrain, on a vu autre chose.
Ouais,
et le Sénégal avait réussi à créer l'espoir. Je pense que si on joue les matchs de football, c'est parce que le petit poussé peut passer sur 4 du mieux, tout est possible.
Ouais,
moi,
puis on
je
l'avait
me
vu.
Dis que pour cette Coupe du Monde, l'objectif, c'est quoi? C'est les demi-finales. Les équipes africaines doivent tout faire pour passer un cap. Passer un cap, c'est quoi? On a déjà fait les quarts de finale. Il faut essayer d'aller quand même en demi-finale, Nicolas Pignot.
Oui, Yacouba Ouédraogo, Amdinsi parlait du petit poussé. On a vu l'Islande à l'Euro 2016, par exemple, qui avait un statut très faible. Et le sur 90 minutes, c'est jouable. Hein. C'est aussi votre avis?
Oui, tout à fait. Ça reste un match de football. Ça, c'est juste sur 90 minutes. Et déjà, moi, je pense qu'il ne faut pas y aller avec des a priori dans la tête, des préjugés comme quoi on fait face à de grandes nations de football, on fait face à des nations qui sont des habitués de grandes compétitions. Ce sont pratiquement aussi les mêmes joueurs qui évoluent en Europe, hein, ces joueurs africains-là. Et donc, il faudrait qu'on parte sans stéréotypes, bien sûr, dans la tête. Et je pense que chaque équipe a bien sûr une chance, un coup à jouer dans tous les groupes possibles.
Alors Jules Valentin Ngoué, vous êtes à Libreville, on va vous entendre dans quelques instants. J'ai joint ce soir Gernot Rohr pour une réaction sur ce groupe difficile du groupe D. Pas facile hein, selon le sélectionneur du Nigeria. On l'écoute et on retrouve Jules Valentin Ngoué juste après.
Un sentiment, je dirais, mitigé, hein, donc, parce que d'abord, on a la satisfaction de se dire qu'on a évité certains cadeaux, mais je pense aussi qu'en même temps, c'est là-bas que réside le pays.
Voilà, alors là, c'était évidemment Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, c'est pas du tout ça. On va vous écouter, Jules Valentin Ngoué. Jules Valentin, on a également la Croatie dans ce groupe hein, de Luka Modric, on a également l'Islande, je le disais. Est-ce que vous pensez que le Nigeria peut tirer son épingle du jeu?
Oui, c'est justement ça la question, parce que pour moi, la Croatie et la Belgique sont des équipes qui peuvent nous fournir facilement un nouveau champion du monde, comme l'Espagne l'avait été en 2000. C'est des équipes très redoutables. Puis le Nigeria est un peu plus prévisible maintenant qu'on l'a vu jouer. Vous savez, les matchs FIFA ont apporté quelque chose de négatif aux équipes africaines, un peu plus surprendre. Et donc, dans des conditions, ces conditions-là, et quand une poule est serrée, vraiment, il faut la jouer à fond. je trouve plutôt que c'est plutôt l'Égypte et le Maroc qui sont dans des poules tactiquement homogènes, qui ont plus de chances peut-être de mieux évoluer.
Alors, on rappelle que la Belgique n'est pas dans ce groupe-là. Hein. Islande, on a évidemment la Croatie, l'Argentine et le Nigeria. On va avancer, on va parler du groupe E avec le Brésil. Élisée Houngpati, le Brésil, on est content du côté de Rio. Brésil, Suisse, Costa Rica et Serbie. A priori, ça devrait passer hein, pour les Brésiliens.
Normalement, les Brésiliens doivent passer dans ce groupe même avec trois victoires. Mais attention, on se rappelle en 2010, la Suisse avait fait chuter l'Espagne qui est devenue championne du monde plus tard. Les Suisses ont un jeu très difficile à manier. Il y a aussi l'équipe de Costa Rica qui connaît bien sûr l'équipe brésilienne puisque c'est vrai, ils ne sont pas dans la même zone, mais ils sont sur le même continent et ils ont l'habitude de se rencontrer. Et puis la Serbie, qui est sa toute première participation à une phase finale de la Coupe du Monde, ça, on reconnaît très bien les Serbes qui ont un jeu très difficile à manier, mais les Brésiliens peuvent s'en sortir dans ce groupe, pourquoi pas avec trois victoires en autant de sorties.
Alors Thierry Cambundi, vous êtes toujours à Kinshasa, est-ce que l'Allemagne, très rapidement, l'Allemagne peut garder son titre selon vous?
En tout cas, il fait partie des favoris selon moi. Je ne suis pas le seul à le dire. Je pense que le monde du football a bien suivi Lionel Messi il y a quelques jours, qui évoquait l'Allemagne notamment parmi les grands favoris de ce mondial. La génération, les joueurs qui ont remporté la Coupe du Monde au Brésil ne sont pas restés les mêmes, mais l'effectif n'a pas bougé et surtout, le sélectionneur qui est toujours en place a réussi à intégrer certains jeunes et au vu de l'impressionnant parcours de la Manchester lors des éliminatoires, je pense qu'elle reste parmi les favoris pour remporter cette Coupe du Monde Russie 2018. Mais à côté de l'Allemagne, il y a beaucoup d'autres sélections qui peuvent également prétendre. Mais à mon avis, cette équipe est bien partie pour réussir un doublé. En tout cas, elle fait partie des bien classés pour cela.
Alors, on va prendre un auditeur qui nous appelle du Tchad, Mahamad Ibn Batuta. Bonsoir.
Oui, ça va?
Ça va très bien. Alhamdoulilah, comme vous dites là-bas. Alors, est-ce que finalement, vous êtes confiant? Qui va gagner la Coupe du Monde, selon vous?
Selon moi, la France, elle va gagner.
Ah, Mbappé, ça vous fait rêver, justement?
Vous dites?
Kylian Mbappé et tous les joueurs, Griezmann, ça vous fait rêver? Vous pensez qu'ils peuvent aller au bout?
Voilà, ils sont mal.
Ouais, on a des soucis pour joindre notre auditeur au Tchad. Malheureusement, on va vous donner quand même les groupes restants, notamment le groupe G, hein, Belgique, Panama, Tunisie, Angleterre. Là également, ça va être compliqué pour les Tunisiens. Et puis dans le groupe H, le retour des Sénégalais après 16 ans d'absence. Un groupe a priori à leur portée, Pologne, Sénégal, Colombie et Japon. Oui, mais voilà, gare à l'excès de confiance dans ce groupe homogène avec Lewandowski chez les Polonais, avec Falcao pour les Colombiens. Augustin Senghor, le président de la Fédération sénégalaise de football, qui nous disait un vendredi sur VO Afrique qu'il craignait l'excès de confiance de ses joueurs. Lui, il aurait préféré avoir une grosse équipe pour avoir un sursaut de motivation. On verra. En tout cas, Aliou Cissé, qui était sur le terrain en 2002, est maintenant sur le banc. On va voir comment il va pouvoir mener les Sénégalais, évidemment, dans cette Coupe du Monde. L'émission qui touche à sa fin. Merci pour toutes vos questions sur Facebook. On va continuer la conversation. Merci à tous de nous avoir suivis. Et on va évidemment remercier tous nos intervenants, tout d'abord à Casablanca, Amine Birouk. Bonsoir Amine.
Bonsoir Nicolas et à la semaine prochaine.
Un coucou également à Jules Valentango et à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
Un coucou également à Amdine Sy qui est à Dakar. Bonsoir Amédine.
Bonsoir Nico et à lundi prochain pour un autre numéro de Sportrama.
On salue également Élisée Houngpati, Nabo Ikon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas, et à lundi prochain.
Et enfin Thierry Cambundi, Top Congo FM, qui est avec nous depuis Kinshasa. Bonsoir Thierry.
Bonsoir Nicolas, et à lundi prochain.
La mise en onde assurée par Georges Léonard Sagno, Nicolas Pinault était à la présentation. Il ne me reste plus qu'à remercier également Yacouba Ouedraogo, et je vous souhaite une excellente soirée à écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, VOA Afrique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs. Rendez-vous en direct dans Sporama, 19h TU. Pour participer, c'est très simple. Laissez vos commentaires ou numéro de téléphone sur notre page Facebook. Alors, à très vite sur le terrain de VOA Afrique.